VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue à nos auditeurs de Lubumbashi en République démocratique du Congo qui peuvent désormais nous écouter sur 102.8 FM. Édition du lundi 4 janvier 2016. À la une ce soir.
Violence au Burundi dans le centre-ville de Bujumbura.
Dans le couvent des sœurs Ben et Mukama, deux obus de mortier sont tombés, faisant 3 personnes blessées. Un autre obus de mortier est tombé près des bureaux du maire de la ville, Freddy Molima, causant la peur et la panique dans la capitale Bujumbura.
Présidentielle en Centrafrique, une vingtaine de candidats exigent l'arrêt des opérations électorales et dénoncent une mascarade.
Au Gabon, les enseignants du secteur public ont décidé de faire grève ce lundi pour obtenir des primes et une meilleure gestion des ressources humaines.
Et vive tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Riyad a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Une nouvelle année qui débute dans la violence au Burundi. 3 obus de mortier sont tombés ce matin dans le centre-ville de Bujumbura. Bilan, 3 blessés, dont une veuve. Par ailleurs, au moins 3 personnes ont été tuées au cours du week-end. Leurs corps ont été retrouvés dimanche matin dans le nord et le sud de Bujumbura. Des tirs avaient été entendus dans la nuit de la Saint-Sylvestre dans certains quartiers contestataires de Bujumbura. Christophe Kourounziza.
Sur l'avenue du peuple Murundi, dans le couvent des sœurs Ben et Mukama, des obus de mortier sont tombés, faisant 3 personnes blessées, dont une veuve grièvement. Un autre obus de mortier est tombé près des bureaux du maire de la ville, Freddy Molima, vers 9h GMT, causant la peur et la panique dans la capitale Bujumbura, qui venait de vivre des jours calmes après la nuit cauchemardesque du vendredi 11 décembre 2015. Mais dimanche, avant midi, un jeune de 29 ans surnommé Lissouba a été assassiné à la 2e avenue du quartier Moussaga, sur une des artères menant à la grande prison de Mbimba, au sud de la capitale. Les témoignages de la population de la localité sont formels. Trésor Pascal Nshimirimana a été assassiné par un policier, mais le porte-parole de la police indique que ce jeune criminel voulait fuir par mégarde. Une balle l'a tué et des enquêtes ont débuté. 2 autres corps ont été retrouvés dans les quartiers de Kinama et de Mutakura, alors que tous les regards restent braqués sur la date du 6 janvier prochain pour le début des véritables pourparlers entre opposition au gouvernement. À Arusha, en Tanzanie, les Burundais s'interrogent toujours si le gouvernement sera présent après les déclarations des autorités burundaises. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Présidentielle en Centrafrique, une vingtaine de candidats à l'élection exigeaient l'arrêt des opérations électorales au cours d'une conférence de presse aujourd'hui à Bangui. Et dénonçant une mascarade, les signataires font état de nombreuses irrégularités après la publication des premiers résultats partiels du premier tour du 30 décembre. Parmi ces candidats, on retrouve Karim Mekaswa, présenté comme un des poids lourds de l'élection, et Sylvain Patassé, fils de l'ancien président. Sur place, on fait le point avec Freeman Sipila.
Au 3e jour de la publication de ces résultats partiels et provisoires, une dizaine de candidats dont les voix n'augurent pas grand succès ont exprimé leur exaspération. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi, ils demandent l'arrêt du processus et l'ouverture d'une concertation entre les différentes parties prenantes. Ces candidats estiment que les opérations sont entachées de multiples irrégularités et donc non crédibles. Première réaction, celle de la coordination des anti-Balaka appelant les contestataires au respect des voix des urnes pour sauvegarder la paix dans le pays. De son côté, l'autorité nationale des élections poursuit la publication des résultats partiels et provisoires. Les résultats de ce soir, estimés à 37% des données traitées, placent toujours en tête Faustin Archange Touadéra avec 146 775 voix, suivi du candidat de l'URCA, Anissé Georges Doléguélé, qui a récolté 109 519 voix. Surprise de la journée, Jean-Serge Bokassa grimpe à la 3e position avec 68 815 voix. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Présidentiel au Bénin, Sébastien Ajavon a officialisé sa candidature à l'élection du mois prochain. Âgé de 50 ans, le président du patronat béninois est notamment à la tête d'une chaîne de télévision et d'une station de radio. Il souhaite être le président de tous les Béninois, sans distinction de sexe, de religion, d'appartenance politique et de région.
Assaut du groupe État islamique en Libye, les djihadistes ont mené deux attaques ce lundi à proximité d'importantes installations pétrolières dans les villes d'Al-Sebra et Ras Lanouf dans le nord du pays. Les assaillants auraient été repoussés mais deux soldats auraient été tués.
Et toujours au sujet du groupe État islamique en Tunisie cette fois-ci, des villageois du nord-ouest ont brièvement bloqué une route aujourd'hui pour réclamer davantage de protection face aux djihadistes retranchés dans des montagnes voisines. La nuit, ils frappent aux portes, demandent de la nourriture et menacent de nous égorger si on prévient les autorités, a expliqué à l'AFP l'un des villageois. Dimanche soir, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'un djihadiste, probablement étranger, avait été abattu par les forces de l'ordre dans la même région.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les vives tensions entre l'Iran chiite et ses voisins arabes sunnites ont franchi un nouveau seuil aujourd'hui. L'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu ou réduit leurs relations diplomatiques avec Téhéran suite à l'exécution par Riyad d'un dignitaire chiite. Salwa Jafari nous en dit plus.
Les attaques contre les représentations saoudiennes constituent une violation flagrante des conventions internationales.
Le torchon brûle entre Riyad et Téhéran. L'Arabie saoudite a annoncé hier la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran. Ses diplomates ont 48 heures pour quitter le pays. Et pour cause, l'ambassade saoudienne en Iran a été incendiée dans la nuit de samedi à dimanche après l'exécution par Riyad du dignitaire Cheikh Nimr Bakir Nimr. Une mise à mort qui continue de susciter la colère de la communauté chiite dans le monde arabe et musulman, notamment en Irak, au Yémen, au Liban et en Iran, où plus d'un millier de personnes sont descendues dans les rues. En revanche, plusieurs pays arabes, le Bahreïn, le Soudan, le Qatar et les Émirats, ont condamné ce qu'ils appellent l'agression iranienne, tout comme l'Égypte et la Mauritanie. Avant l'annonce saoudienne de la rupture des relations avec Téhéran, les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne, la France et l'Allemagne avaient prédit que cette exécution allait mener à une aggravation des tensions sectaires dans plusieurs pays de la région.
Oui.
À noter que la Mauritanie a également dénoncé les actes de vandalisme contre des représentations diplomatiques saoudiennes en Iran.
Pour sa part, le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu lundi avec ses homologues iraniens et saoudiens Javad Jarid et Abdel Joubeir pour presser les deux puissances rivales au Moyen-Orient de faire baisser les tensions, a confié un diplomate américain. Nous les exhortons au calme et à la désescalade. La situation doit être apaisée, a expliqué le diplomate américain à la suite des appels téléphoniques de M. Kerry.
Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, l'Indonésien Makarim Wibisono, a présenté lundi sa démission car Israël ne l'a jamais autorisé à pénétrer dans ses territoires. C'est ce qu'a annoncé l'ONU. Les détails avec Tatiana Mosso.
Il quittera ses fonctions le 31 mars à la fin de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme devant lequel l'expert présentera son dernier rapport. Makarim Wibisono avait pris ses fonctions en juin 2014, succédant à l'Américain Richard Falk, qui n'avait pas non plus été autorisé par Israël à se rendre dans les territoires palestiniens. En 2014, Israël avait déjà empêché Makarim Wibisono d'enquêter en Israël et dans les territoires. Le rapporteur spécial avait fait une nouvelle demande en octobre dernier, sans jamais recevoir de réponse des autorités israéliennes, a précisé le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Le rapporteur spécial est considéré comme l'expert de l'ONU le plus haut placé sur la question des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Il est nommé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une institution avec laquelle Israël a des relations conflictuelles. Israël a boycotté à plusieurs reprises des sessions de ce conseil qu'elle considère comme un organe entièrement politisé.
En Afghanistan, les forces de sécurité ont mis fin lundi soir au siège par des hommes armés d'un bâtiment proche du consulat indien à Mazar-i-Sharif, dans le nord. siège entamé 25 heures plus tôt, a appris l'AFP auprès des autorités locales, selon lesquelles les assaillants ont tous été tués.
Et des djihadistes d'Al-Qaïda au Yémen ont lapidé à mort une femme après l'avoir accusée d'adultère et de prostitution dans la ville de Moukalla, qu'ils contrôlent dans le sud-est. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui plusieurs témoins. La lapidation fait rarissime au Yémen, a eu lieu dimanche selon eux. Les combattants d'Al-Qaïda au Yémen sont désormais concurrencés par ceux du groupe État islamique, qui après revendiquer des attentats meurtriers anti-chiites, ont commencé à viser des cibles gouvernementales dans le sud.
Reporters sans frontières estime, presque un an après l'attaque sanglante contre Charlie Hebdo à Paris, que le djihadisme est devenu l'un des pires prédateurs de la liberté de la presse dans le monde. Dans un rapport intitulé « Le djihad contre les journalistes », l'ONG résume les efforts faits par des groupes comme État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram et Al-Shabaab pour intimider et réduire au silence les journalistes.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco, c'est tout de suite avec Anastasie Tudiech.
Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, entame ce lundi une tournée de 6 jours en Afrique. Son agenda comprend des rencontres avec des chefs d'État, Muhammadu Buhari du Nigeria, ainsi que Paul Biya du Cameroun. Madame Lagarde rencontrera également les ministres des Finances des 6 pays de la zone CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Mi-décembre dernier, la Banque des États de l'Afrique centrale a indiqué que la croissance de la zone CEMAC a décroché de 2,5 points, passant de 4,9% en 2014 à 2,4% en 2015. En Somalie, un lotissement dynamisé par la diaspora annonce le renouveau. Daru Salam, à 7 km de Mogadiscio, la capitale, située dans une zone rurale, est en train de devenir un quartier résidentiel grâce à la diaspora qui revient au pays et achète frénétiquement. 500 maisons devraient être construites qui devraient abriter 500 familles. Pour le moment, 50 habitations sont déjà achevées selon l'entreprise de construction. Le projet, lancé début 2015, a été estimé à 20 millions de dollars et a été financé par la Salam Somali Bank. La société sénégalaise Patisen, spécialiste des pâtes à tartiner, chocolat et margarine, ainsi que de produits culinaires comme les bouillons ou le vinaigre, veut compléter ses gammes de produits en se lançant à la fin du second trimestre 2016 dans la production de mayonnaise. Les investissements ont été financés en partie sur les fonds propres de Patisen pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. La nouvelle usine embauchera environ 300 employés à ses débuts.
La Minute Éco, merci Anastasie.
Les sports à présent, Eric Manirakiza. Eric, bonsoir.
Bonsoir, Dia.
On commence avec le football, la CAF, qui lève l'interdiction des rencontres continentales en Guinée.
La nouvelle est tombée aujourd'hui lundi et met fin à cette interdiction qui était en vigueur depuis août 2014. Elle est consécutive à l'annonce de l'OMS le 29 décembre dernier, déclarant la fin de la transmission d'Ebola en Guinée.
Le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur allemand, un joueur d'origine sénégalaise.
Effectivement, c'est une offre record de Manchester City pour Leroy Sané, l'attaquant international de Schalke 04. Le club anglais est sur le point de libérer 55 millions d'euros pour le jeune talent de 19 ans. Leroy Sané, le fils de l'ancien international sénégalais Souleymane Sané, qui a fait sa carrière en Bundesliga. Et monsieur Idrissa, toujours dans les transferts, le milieu de terrain argentin Ricardo Alvarez s'est rejoint à la Sampdoria pour 6 mois. Et enfin, Barcelone peut encore recruter car la FIFA a levé la sanction d'interdiction de recrutement pendant 2 mercatos successifs contre le club catalan pour des infractions dans les transferts de mineurs.
Puisqu'on a parlé tout à l'heure du Sénégal, eh bien, début chaotique pour le Dakar 2016.
C'est un début tourmenté après à peine plus de 24 heures. La 38e édition du Dakar connaît des débuts chaotiques. Voiture percutant des spectateurs et faisant plusieurs blessés graves dès le prologue ce samedi, puis étape annulée le lendemain en raison des conditions météo.
La NBA, National Basketball Association, l'équipe de professionnels de basketball
Oui, quelques résultats d'envers a battu Portland, Lakers a gagné contre Phoenix et Chicago a failli perdre face à Toronto avec une légère différence de 2 points. Chicago s'est imposé avec un Jimmy Butler plus fort que Jordan. Il a inscrit 40 points en une mi-temps, balayant ainsi le record de Michael Jordan. Et il faut noter Idrissa qu'en athlétisme, l'Allemagne vient de criminaliser le dopage avec le risque de 3 ans de prison.
Morgan Diaïek et Idrissa Seydoudia en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Idrissa, le Gabon.
Oui, les enseignants du secteur public ont décidé de faire grève ce lundi pour obtenir des primes et une meilleure gestion des ressources humaines. Détail avec notre correspondant à Libreville, Jean-Revy Dabani.
Depuis ce matin, plusieurs établissements scolaires du public sont restés fermés au premier jour d'une grève lancée par le puissant syndicat de l'éducation, la CONACYCED, Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Les enseignants réclament entre autres le paiement de la prime d'incitation à la performance, le paiement d'arriérés des salaires ainsi que le paiement des salaires des nouveaux fonctionnaires. Selon Yvan Linkumba, délégué à la communication de la CONACYCED, cette nouvelle grève d'un mois est un avertissement envers les autorités.
Ces revendications ne trouveront pas satisfaction. Je dis bien tant que ces revendications ne trouveront pas satisfaction, les enseignants ne repartiront pas dans les salles de classe, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les menaces qui vont être brandies de renavail. Comme nous le savons, les menaces ultimes, et comme ça a été le cas au niveau de, entre les mois de juin et juillet, ce sont les suspensions de salaire. Nous sommes aguerris et ils le savent pertinemment. Ils résolvent tout simplement les intimidations, nous ne ferons pas peur. Et tant que ce ne sera pas fait, les enfants seront à la maison.
Pour Simon Donguedio, délégué général de la CONACYCED, qui regroupe les principaux syndicats enseignants du pays, la grève est largement suivie sur l'ensemble du territoire national. Mais VOA Afrique, qui s'est rendu dans certains établissements de la capitale gabonaise, a pu constater que quelques lycées et collèges avaient ouvert leurs portes malgré les appels à la grève. Assise dans la vaste cour d'un établissement primaire, Joëlle Akélé est venue observer le piquet des grèves. Elle reproche au gouvernement de ne rien faire pour améliorer les conditions de travail des enseignants.
Je suis ici pour revendiquer mes droits. Il y a le paiement des vacations, il y a le paiement de la PIP du deuxième trimestre que jusqu'à présent nous n'avons pas perçu. Nous avons le cas des rappels qui bien, nous allons à la deuxième année sans rien. Donc sans ça, je ne vois pas comment la sérénité peut revenir au sein de la maison.
Ces 10 dernières années, l'éducation publique au Gabon a été affectée par une série de mouvements d'humeur, tant des enseignants que des élèves et étudiants, en lien avec des revendications salariales ou d'amélioration des conditions de vie et de travail. Lui Patrick Mombo, enseignant, n'a constaté aucune évolution dans les problèmes soulevés par les enseignants ces dernières années. Il pointe notamment le manque de salles de classe actuellement surchargées.
Autour du président de la République, nous nous rendons compte que le gouvernement passe le temps à mentir plutôt qu'à résoudre les problèmes. La preuve, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes en droit de revendiquer puisque les droits syndicaux étant les droits de l'homme. Et le Gabon s'était inscrit dans cette lignée en disant que le Gabon était un état de droit qui respectait les droits de l'homme. Nous ne comprenons pas trop pendant que nous appelions à une grève pacifique parce que le piquet de grève, la grève se déroule au lieu du travail. Martine Oulabou étant un des établissements, donc nous sommes à notre lieu de travail. Nous tenons notre piquet de grève tranquillement comme nous l'avions fait au niveau de l'éducation nationale. Nous ne comprenons pas trop pourquoi la tutelle fait venir un dispositif répressif. C'est pour vous dire que nous sommes dans une dictature.
Dans un communiqué publié lundi par le quotidien gouvernemental L'Union, le gouvernement a appelé les chefs d'établissement scolaire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne reprise des cours. Le Gabon compte près de 22 000 enseignants dans le secteur public, dont 70% dans la capitale gabonaise. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Les Sierra Leonais tentent de reprendre une vie normale 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie d'Ebola dans leur pays. Ils restent confrontés à de nombreux défis. Notre envoyée spéciale Nina De Vries s'est rendue à Freetown. Son reportage nous est présenté par Michel Joseph.
En ce début d'année, Dadi Hassan Camara est reconnaissant d'avoir ses enfants avec lui. Il fait partie des 4000 personnes à avoir survécu à l'Ebola en Sierra Leone. 9 membres de sa famille, y compris un de ses fils, n'ont pas eu cette chance-là. Depuis qu'il s'est rétabli, Dadi Hassan Camara n'a pas trouvé d'emploi. Il a contracté l'Ebola au contact de sa mère au moment où le virus de la fièvre hémorragique se propageait à travers le pays.
When I was in the treatment center, I was totally
Lorsque j'étais dans le centre de traitement, j'étais furieux au sujet de la situation. Même lorsque les médecins m'appelaient pour me donner les médicaments, je les ignorais et par moments, ils avaient même peur de moi.
L'épidémie d'Ebola, qui a éclaté en décembre 2014 en Guinée, a fait plus de 11 000 morts. Après la Sierra Leone et la Guinée, le Libéria devrait être déclaré libre de la fièvre hémorragique ce mois-ci. Le souvenir de l'épidémie reste encore vivace dans l'esprit de ceux qui étaient en ligne de front de la lutte contre le virus. Saliou Diallo est du nombre. Chargé de la mobilisation pour l'UNICEF, il a fait du porte-à-porte pour informer les gens sur les méthodes de protection contre l'Ebola. Saliou Diallo est heureux d'entamer 2016 sans l'Ebola, mais il redoute une résurgence de la maladie, d'autant plus que les Sierra Leonais, en gens très affectueux, aime bien le contact.
Interdiction des accolades, des poignées de main, nous ne voulons pas qu'ils abandonnent ces habitudes. Mais on n'y peut rien. Vous voyez, les gens se donnaient des claques dans le dos, se serraient la main, dansaient ensemble. C'est effrayant, tout cela.
Dadi Hassan Camara, lui, s'inquiète de l'avenir, ne sachant pas trop comment payer le loyer ou nourrir sa famille. Certes, il reçoit l'aide de quelques amis, mais il a conscience que cela ne durera pas indéfiniment. En dépit de ces sombres perspectives, Dadi Hassan Camara veut rester positif, espérant que 2016 sera une année plus clémente.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Après une analyse de la situation socio-économique que traverse le Tchad, l'Union des syndicats du Tchad, principale centrale syndicale des travailleurs du secteur public, fait des propositions pour une sortie de crise. Propositions contenues dans un mémorandum publié en ce début d'année. La correspondance d'André Kotman-Jinger, notre correspondant à N'Djamena.
Ce document de 23 pages fait suite aux propos contradictoires du président tchadien sur la situation socio-économique du pays. Le 18 décembre 2015, Idriss Déby Itno a déclaré que tous les chantiers arrêtés à cause de la conjoncture financière seront relancés en 2016. C'est une opportunité d'emploi pour les jeunes, dit-il, qui broient du noir. Le 30 décembre 2015, soit 2 semaines après cette sortie médiatique pleine d'espoir, Idriss Déby Itno recule. Il demande à son gouvernement de geler l'intégration de jeunes diplômés à la fonction publique pour 3 ans. Dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2015, il attire l'attention de ses concitoyens en ces termes.
L'année 2016 sera encore difficile. L'insécurité qui s'est installée dans la sous-région va continuer à entraîner dans son siège des perturbations quant à nos échanges commerciaux avec les pays voisins, en particulier le Cameroun, le Nigeria et la Libye, avec pour conséquence directe la hausse des prix des denrées de base et le dérèglement généralisé de notre économie. Les perspectives pour la hausse du prix du pétrole restent faibles et nous devons nous préparer à cela. J'invite fortement le gouvernement à accélérer la diversification de l'économie, notamment la promotion de l'agriculture et de l'élevage et attirer des investissements privés pour créer d'emplois en faveur des jeunes et transformer ainsi notre économie.
Pour décrisper cette crise sociale, l'Union des syndicats du Tchad UST exige du gouvernement un audit exhaustif sur la gestion de la douane et du trésor public depuis la nomination de son frère cadet Salah Déby Itno à la tête de cette institution jusqu'au jour de son départ et le ramener devant la justice tchadienne. La dissolution de la direction générale des grands travaux présidentiels qui constitue selon l'UST une source officielle de détournement de deniers publics. La nomination à la tête de régie financière des cadres compétents sans considération familiale et politique. Le document précise par ailleurs que les travailleurs n'entendent plus voir leurs conditions de vie et de travail se dégrader et leur pouvoir d'achat, déjà précaire, continue à baisser. Ils ne sont pas prêts non plus à payer le prix de la mauvaise gouvernance et rejettent la politique de deux poids, deux mesures qui se caractérise par l'impunité pour les uns et la rigueur pour les autres. Ils décident enfin de s'opposer désormais aux nominations qui ne respecteraient pas les critères. André Kodumadjingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Le torchon brûle entre l'Iran et l'Arabie Saoudite suite à l'exécution par Riyad d'un dignitaire chiite samedi. Quel impact aura-t-elle sur la région ? Isha Sarai a parlé avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique.
Ce qui a été une surprise, c'est cette exécution d'abord. On ne pensait pas que les Saoudiens engendreraient un tel niveau de tension. Un nombre important d'exécutions, parmi lesquelles un dignitaire religieux chiite assez important. Et donc, je dirais que les réactions qui ont été occasionnées en Iran sont assez prévisibles, même si personne ne s'attendait à ce que l'ambassade saoudienne soit incendiée. Mais il est évident qu'on est monté en tension et que la rivalité entre les deux pays va encore plus se durcir.
Et alors, le Bahreïn et le Soudan ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Est-ce que leur exemple sera suivi par d'autres pays ?
Ça va être intéressant à suivre, notamment les autres pays du Golfe. Alors, le Bahreïn a besoin de l'aide militaire et policière de l'Arabie Saoudite, donc ça, ce n'est pas une surprise. Le Soudan, c'est la même chose. C'est un pays qui est assez pauvre et qui est aidé financièrement par l'Arabie Saoudite. Il va être intéressant de voir si les autres pays du Golfe vont faire la même chose. Je pense notamment au Koweït, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Est-ce qu'ils vont adopter la même position ? Ce n'est pas sûr. Mais cela va être intéressant de suivre ces décisions dans les prochains jours et les prochaines semaines parce que ça donnera une idée de ce qu'est l'influence réelle de l'Arabie Saoudite dans le monde arabe.
Et de toute façon, quels autres impacts ont cette tension sur la région en général ?
Le premier impact, c'est qu'il y a deux points qui vont être absolument fondamentaux. Le premier, c'est la crise au Yémen. Il n'y aura pas de paix au Yémen tant qu'il n'y aura pas d'accord, ou en tout cas d'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, en tout cas tant qu'il n'y aura pas de détente. Et donc aujourd'hui, on voit mal comment la situation va s'améliorer si il y a une crise entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, puisque chacun soutient un des deux protagonistes en armes. L'Iran soutient la rébellion houthiste et l'Arabie Saoudite soutient les anciens gouvernements, les représentants de l'ancien gouvernement. Et puis vous avez l'autre point qui est la Syrie, c'est-à-dire que pour arriver à une solution au moins politique en Syrie, il y a besoin aussi d'un accord, en tout cas d'amélioration des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et là aussi, si jamais la tension persiste, on voit mal comment on va arriver à une solution pacifique en Syrie. Donc c'est pas simplement les rapports entre ces deux pays, mais c'est aussi tous les conflits et crises qui sont nés de leur guerre froide.
Voilà, c'était Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, au micro d'Isha Sarai.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Voilà, on écoutait Adèle, Hello.
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, et j'essaierai de le prononcer avec un bon accent portugais, Nelson Lopes. Présentation Idrissa Sedulia et Morgane Guériec.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.